Nous avions commencé la dernière fois à voir ce premier jugement de sagesse qui, je vous disais, doit se voir dans la lumière de la simplicité de Dieu. À partir de la simplicité absolue de Dieu, l'ipsum esse subsistens. Il faut donc bien essayer de comprendre ce que c'est que cette simplicité absolue de l'être de Dieu. Dans cette lumière, nous pouvons affirmer que toute autre réalité existante, donc moi-même, puisqu'il y a un égocentrisme métaphysique qui est bon, n'est-ce pas, moi-même, je suis un être créé, c'est-à-dire un être qui est radicalement dépendant d'un autre, un être qui à l'existence laissée participer. Cet essai participé, par définition, il est un essai second. Il est un essai qui dépend de la causalité première. Et cet essai participé, il est reçu. Alors, toute la question, c'est de comprendre ce que veut dire être reçu. Il est reçu dans un autre, mais pas un autre qui existe, puisqu'alors à ce moment-là, il ne serait pas créé. Et la création, c'est quelque chose de fondamental et de premier. Donc laisser participer s'empare de tout moi-même. Je suis un laisser participer dans tout mon être. Cet essai participé, il est reçu. Alors, il est reçu non pas dans un sujet qui préexisterait à l'essai participé, mais il est reçu en ce sens que nous devons distinguer dans l'être créé que je suis l'aspect acte, essai participé, et l'aspect puissance. Laisser participer acte et en moi-même ce qui reçoit, ce qui est la limite de laisser participer, ce qui limite laisser participer. Alors, c'est de fait ce qu'on a appelé l'essence. Alors, je vous avais dit de bien comprendre cette fameuse distinction. Permet de dire qu'en toute créature, il y a une distinction entre essai et essence, entre l'exister et l'essence. Alors vous comprenez que l'essence, ce n'est pas rien du tout, hein, ce n'est pas du tout du non-être, ce n'est pas du tout la limitation de l'essai, c'est vraiment la capacité d'exister, cette capacité radicale d'exister. Vous voyez, quand Aristote dit à l'homme l'être, le to anthropo einai, est-ce qu'Aristote ne montre pas quelque chose de semblable à l'être l'homme, c'est-à-dire ce qui caractérise cette existence particulière qui est celle de l'homme, c'est que justement, elle est déterminée par la nature de l'homme. Mon exister, en lui-même, laisser participer, en lui-même, laisser, n'a pas de limite. Laisser participer veut dire tout simplement un laisser second. Mais participer n'indique pas la limite, indique simplement qu'il est reçu, qui n'est pas premier, donc qui n'est pas l'ipsum esse subsistens. C'est négatif, participer, ça veut dire dépendant d'eux, mais il ne donne pas la limite. Qu'est-ce qui donne la limite de cet essai? C'est l'essence. Cette essence reçoit cet essai. Cet essai est reçu dans l'essence. Cette essence et cette capacité d'exister, l'essence vient déterminer l'existence. Alors, ça c'est une fameuse thèse. Vous voyez que c'est assez simple, cette thèse, quand on la situe bien. Elle est assez simple, parce que c'est une conclusion évidente. Que en dehors de Dieu, tout exister est complexe, du fait même qu'il est créé. S'il est complexe, je cherche les deux éléments de cette complexité. Toute complexité implique deux éléments. Il y en a un qui est en acte et l'autre qui est en puissance. Tout simplement. Il y en a un qui est premier au point de vue acte et l'autre est en puissance. Capacité. Alors l'essence, elle est la même pour tous les hommes. C'est la même, faisons attention, chacun d'entre nous avons la nôtre, mais elle est la même en ce sens qu'elle a la même capacité d'exister. Ma capacité d'exister est la même que la vôtre, individuellement, elle a son caractère particulier, son originalité, comme pour vous, mais en fond c'est la même. L'exister de la vache est autre, l'exister de la petite bête du bon Dieu est autre. Oui, l'exister de l'arbre est autre, mais toujours je distinguerai essence et existence. Alors vous voyez, je crois que c'est là où on voit comment cette distinction arrive. On précisera, entre l'essence et l'exister, il y a une distinction réelle. Alors comprenons bien quand on dit ça, on ne veut pas dire du tout une distinction de res. Ou adresse, c'est-à-dire de réalité existante à une autre réalité existante. Ce serait faux, puisque l'essence, par définition, est saisie à partir de l'acte et en référence totale à l'acte. Donc l'essence n'existe jamais seule. C'est l'intelligence qui distingue les deux. Mais l'essence n'existe jamais seule. Ça ne peut pas exister seule, l'essence. Ça n'existe que dans la pensée. Mais ça a un fondement dans la réalité. Mais en tant que distinct, en vous, tâtez-vous le pouls. Est-ce que quand vous touchez le pouls, est-ce que vous touchez votre essence? Quand vous touchez, est-ce que vous touchez votre essence ou est-ce qu'elle est votre essence? Vous ne pouvez absolument pas la localiser. Votre existence, oui, je suis un être qui existe. Et comme je suis un être qui existe et qui est limité, qui est participé, et puis j'implique de la matière, je suis limité par le temps et l'espace, et donc j'existe dans tel lieu. Ça, c'est très vrai. Mais mon essence, c'est votre intelligence, et seule l'intelligence qui la saisit. Et l'intelligence saisit l'essence comme distincte réellement, distinction réelle par rapport à l'essai. Pourquoi? Parce que la distinction entre acte et puissance est une distinction réelle. Ce n'est pas une distinction de raison. Alors ça, c'est la scolastique qui précisera, de raison-raisonnement. Alors la philosophie, évidemment, on n'en parle pas beaucoup, la distinction de raison-raisonnement. Ça veut dire une distinction que je fais en pensant. Alors je vais vous en donner un exemple pour que vous compreniez mieux. La distinction entre animal et animal raisonnable. Une distinction de raison résonante. Parce qu'en moi, l'animal, il est raisonnable par moment. Oui, parce que quand il dort, il n'est pas raisonnable en acte. Il peut à ce moment-là faire des actes très irraisonnables. N'est-ce pas? Quelqu'un vient vous déranger quand vous dormez, vous pouvez lui donner un coup de poing, c'est tout à fait. Tout simplement, vous vous dévolez. Cet animal n'est pas méchant, mais quand on l'attaque, il se défend. Alors vous voyez, il se défend à ce moment-là, il a des réactions vives, pas rationnelles. Quelqu'un qui s'endort, vous le redites, il se défend, parce qu'il aime bien dormir. Ça lui fait partie de la possibilité de se détendre. Donc la distinction entre animal et raisonnable est une distinction de raison raisonnante. C'est l'intelligence qui fait ça, ce n'est pas une distinction réelle. ne pouvez pas distinguer en vous animal et raisonnable. Non. C'est une distinction qui se fait au niveau de mon intelligence qui saisit l'universel générique et qui saisit l'universel spécifique. Donc je suis au niveau de distinction de l'intelligence qui n'est pas par rapport à la réalité. Alors quand je dis distinction réelle, c'est parce que je touche deux aspects réels, l'exister et l'essence. Donc c'est pas une distinction, c'est une distinction réelle, mais c'est pas une distinction de raison raisonnante. Alors ça, c'est une fameuse thèse par rapport à tout un courant, puisque c'est pour distinguer par rapport à Suarez. Suarez dit que ce n'est pas une distinction réelle. Je crois qu'il faut maintenir, c'est une distinction réelle, parce que c'est une distinction qui est réelle dans la réalité, parce que c'est l'acte et la puissance. L'acte au niveau de la puissance. Alors, autre question subtile, pour ceux qui n'ont pas encore vu toute leur métaphysique, mais je suis obligé de la voir. Question subtile pour ceux qui n'ont pas encore vu toute leur métaphysique. C'est la distinction qui existe quand on a fait la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance. Les cinq modalités de l'acte et les cinq modalités de la puissance. Alors, les cinq modalités de l'acte, je les rappelle pour ceux qui ne les connaissent pas et pour les autres. Je dis laisser, la bonté, la vérité, l'opération vitale et le mouvement. Je crois qu'il y a vraiment cinq modalités de l'être en acte. L'être en acte et l'être en puissance. L'être en acte étant le principe ultime, la fin. Alors, de fait, il y a cinq modalités de l'être en acte, l'essai. Donc, puisqu'il y a cinq modalités de l'être en acte, il y a donc cinq modalités d'être en puissance. Alors, quelles sont ces cinq modalités d'être en puissance? L'acte d'essai regarde quoi? Ce qui est capable d'être actué. Donc, on peut dire la substance. C'est la substance qui existe. La substance existe en premier lieu. Les accidents, les qualités n'existent pas directement. Donc seule la substance existe. La bonté, c'est le point de vue de l'appétit. L'appétit naturel. L'appétit naturel est en puissance. Et puis ainsi de suite. Ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder la substance. La substance, quand je la regarde comme un être en puissance, vous comprenez bien que ce n'est pas du tout la substance saisie comme principe. Au livre Zeta, là encore, c'est là où c'est très difficile pour nous. Et je comprends que c'est quelqu'un qui aborde la philosophie de l'extérieur n'y comprend plus rien. Parce que le même mot, selon les niveaux différents d'intelligibilité où je l'ai saisi, ce même mot a une signification différente. Vous allez tout de suite saisir. J'espère. Au niveau des catégories, vous dites substance première, substance seconde. Au niveau métaphysique, vous dites ousia, principe, cause. Et au niveau ici, vous dites encore substance qui est l'être en puissance relativement à l'essai. En réalité, c'est laquelle celle-là? C'est comme la substance seconde. Puisqu'elle n'existe pas, elle est capacité d'exister. Alors, dans la mesure où elle est capacité d'exister, elle est quoi? Elle est donc l'essai. Puisque la substance, en tant qu'elle est capacité d'exister, ce n'est pas le principe. Donc une certaine manière d'être qui est capable d'être actuelle. Alors vous avez donc l'essence à deux niveaux. Vous l'avez dans un jugement de sagesse par rapport à laisser participer. Et vous l'avez prise dans une pureté encore beaucoup plus radicale. Ce n'est pas l'essence créée, c'est l'essence en tant qu'elle se distingue de l'essence. Et je crois qu'on est bien obligé. Je ne vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. J'aime mieux dire substance essence. Vous voyez ? C'est-à-dire dire dans la substance sa capacité à être déterminée par l'essai. Donc on pourrait dire substance essence pour chaque fois bien distinguer et dire là tout simplement, parce que là aussi c'est la substance et c'est encore la substance essence, c'est bien évident. C'est pour ça que je disais la nature. Et c'est pour ça que vous trouverez dans saint Thomas et vous trouverez des lieux dans saint Thomas où saint Thomas met en parallèle nature, essence, substance. Il met ça parallèlement. Et même, il va jusqu'à dire. Alors, comment pouvons-nous distinguer un peu et préciser dans le De Intelligentia, saint Thomas dit tout à fait nettement. Nature, essence, substance, fluidité, c'est la même chose. Alors, à partir de là, vous avez la bouillabaisse. Hein. Vous ne voyez plus du tout. Alors, essayons de préciser au plan philosophique. Saint Thomas fait ça en théologien. Et en théologien, on comprend très bien pourquoi il le fait. On essaiera de comprendre. Mettre la puce à l'oreille, c'est très important. Alors, je vais essayer de préciser. La première chose que je détermine, c'est la nature. C'est plus facile à saisir. La nature, un principe de ce qui est vu. La nature est forme, la nature est matière. Bien faire comprendre que la distinction de la forme et la matière est une distinction qui est réalisée en premier lieu dans l'œuvre d'art. C'est dans l'œuvre d'art que je distingue pour la première fois matière et forme. Ça reste même dans le langage courant. Hein. Dans une dissertation, on dira oui, la matière et la forme. Hein. 15 pour la forme, 10 pour la matière. Alors on dira la forme, là c'est très élégant, c'est dit avec une élégance remarquable, mais vraiment le contenu, pas fameux. Vous ne voulez pas dire grand chose. N'est-ce pas, le père Sertilange, quand il faisait la critique des petits sermons et des improvisations, parce que nous avions des improvisations, pas encore institué ici, vous voyez, des improvisations et des. Alors le père Sertilange disait très beau la forme. Quand vous aurez fait votre théologie, il y aura un peu plus. Alors c'était une fois un prédicateur éminent qui était déjà prêtre, il était entré, je ne dis pas qui parce qu'il est encore vivant, il a fait son noviciat avec moi, qui avait fait vraiment, qui était vraiment un très bon prédicateur. Alors évidemment, une improvisation, vous comprenez, lui dépassait tous les autres beaucoup, n'est-ce pas ? Il avait prêché je ne sais trop combien de fois. Donc il n'était pas beaucoup foulé, si vous voulez. Alors, très bien, petite improvisation. Père Sertilange était dans le fond de la glace, il ne savait pas du tout c'était qui le Père Sertilange, ne demandait jamais. Il y avait le numéro 1, le numéro 2. Donc, alors, non, c'était le numéro 1. Alors, c'était lui. Bon. Alors, après, Père Sertilange dit oui, oui. Quand le frère aura fait, il ne savait pas du tout qu'il était déjà prêtre, quand le frère aura fait sa théologie, il saura qu'un sermon, ce n'est pas un air de flûte. Alors, ça faisait bien comprendre ce que c'est que la forme et le contenu. Le fond. Donc, la matière et la forme. C'est très important de comprendre que c'est à partir de l'œuvre d'art que se fait la distinction forme et dos et puis matière. Là, on comprend tout de suite à partir de l'œuvre d'art. Le petit exemple que prend toujours Aristote, hein, le cercle d'airain, le cercle de bronze, le cercle de pierre, le cercle de bois. C'est toujours le cercle, Eidos. Toujours la même forme, mais la matière est différente. Bon. Cette distinction qui est au niveau pratique, qui est très facile à faire, tout le monde peut faire cette distinction. Il ne faut pas être très, très, très intellectuel pour faire la distinction entre le cercle de bois et le cercle d'airain. C'est toujours le cercle. Donc la même forme qui peut habiter des matières différentes, qui peut informer des matières différentes. Et c'est la forme qui informe, qui détermine. Je transpose cette distinction de forme et matière vers quelque chose de beaucoup plus profond, au niveau alors proprement spéculatif, nature forme, nature matière. Alors c'est là qu'on dira les formes Aristote. Il faut bien comprendre que cette distinction nature-forme, nature-matière, c'est pour ça qu'il faut toujours dire nature-forme, nature-matière. Ce n'est pas la même chose que forme-matière pour l'œuvre d'art. Et alors là, c'est très important de comprendre qu'une distinction qui est faite à un niveau peut être transposée à un autre niveau, mais alors dès qu'elle est transposée à un autre niveau, elle a une signification tout à fait différente. Et quand vous êtes en face d'une distinction, il faut toujours se demander à quel moment cette distinction est apparue. Autrement, vous la prenez comme un passe-partout et au bout d'un certain temps, vous ne savez plus du tout ce que ça veut dire. Ça a été le danger de la scolastique décadente. On s'est servi d'une distinction qu'on a appliquée à tout. Matière-forme, puisqu'on l'applique au sacrement. Matière-forme. Je comprends très bien qu'on l'applique au sacrement. Les sacrements, c'est une œuvre d'art. C'est vrai, c'est une œuvre d'art du Saint-Esprit. C'est une œuvre d'art. Si c'est une œuvre d'art, je peux trouver matière et forme. Oui, alors on transpose, analogiquement, on transpose une distinction qui est première à d'autres domaines. Alors ici, on a transposé du domaine de l'œuvre d'art à la nature. La nature est en principe propre de ce qui est mu. Toute réalité mue implique une détermination à la forme. La forme, c'est la détermination. Eidos. C'est la détermination. La forme informe. La matière, c'est la détermination. C'est la détermination. C'est un co-principe par rapport à la forme. C'est-à-dire que ça, qui coopère. Puis vous avez substance, principe propre de ce qui est, principe ou cause. Principe propre ou cause propre de ce qui est. Quiddité. Je vous ai dit l'autre jour, hein, quiddité, toti eneinan. Dès qu'on vous entendez quiddité, tout de suite transposez-vous toti eneinan. Même si vous ne savez pas beaucoup de vrai. C'est-à-dire le point de départ de la quiddité, le toti eneinan. Donc, le tien du toeinan. L'être du tien. L'être du tien. Quand j'interroge, qu'est-ce que c'est que cette réalité ? Alors, c'est l'intelligibilité première, fondamentale. Je ne peux pas aller au-delà. Quelle est la quiddité de l'homme ? Quelle est la quiddité de Pierre ? C'est d'être un animal raisonnable. C'est d'être homme. C'est sa quiddité. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est que la quiddité comparativement à la substance ? c'est que je suis ici au niveau de l'intelligibilité, tandis qu'ici je suis au niveau de l'être. Or, l'être fonde l'intelligibilité. Qu'est-ce que c'est que l'intelligibilité? C'est l'être face à l'intelligence. Ce que l'intelligence est capable d'assimiler de la substance, l'acuité. Ce que l'intelligence est capable d'assimiler, l'appréhension. Pas le jugement, l'appréhension. L'appréhension est déterminée. Donc, c'est ce que l'intelligence est capable d'assimiler de la substance. Il y a un filtre, vous voyez, entre les deux. Hein. C'est l'intelligence qui saisit la substance, l'acuité. Alors, vous avez en dernier lieu essence. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose de semblable. Forme, nature-forme, substance, quidité, essence. Il y a quelque chose d'analogue dans tous ces déterminés. Qu'est-ce qu'il y a d'analogue? C'est que je suis en présence d'une détermination. Ce qui détermine. C'est vrai, la forme détermine la matière. La nature-forme détermine la matière. Alors c'est ici, pour ceux qui aiment le grec, c'est la morphe ici. Eidos et Morphée. Aristote, il est souvent parallèle. Eidos, c'est Platon, Morphée, c'est Aristote. Vous voyez? C'est intéressant à voir, c'est intéressant à souligner au point de vue grec. Hein. Donc, c'est la détermination, la substance, c'est un principe sourd de toute détermination. Donc, ça va encore plus loin. L'acuité, c'est l'intelligibilité qui détermine mon intelligence, ce qui spécifie. Un principe de spécification, le totienainan, ce qui va déterminer mon intelligence, l'essence, c'est encore une détermination. Alors, l'essence est-elle principe? Non. Pourquoi? Parce que l'essence, prise en elle-même, est toujours une capacité d'exister. Si c'est une capacité d'exister, elle est être en puissance. Si elle est être en puissance, elle n'est donc pas principe. Le principe, c'est ce qui est premier. Or, l'être en puissance, par définition, puisqu'il est en puissance, il est second. Donc, ce qui est second ne peut pas être premier, c'est évident. Donc, c'est impossible que l'essence soit principe, c'est impossible que l'essence exprime un principe. Qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime, justement, l'être en puissance, sa capacité d'exister. Je crois que c'est ça qui exprime le mieux que c'est que l'essence, sa capacité d'être, d'essayer, non, d'être en acte. C'est ça l'essence. Une capacité d'exister, d'être en puissance. Alors, l'essence, elle est présente dans la substance, c'est bien évident. La substance, elle existe, principe formel de ce qui est. Donc, la substance implique l'essai, l'exister. Tandis, l'essence se distingue de l'exister. Je regarde dans l'essence sa capacité d'exister. Mais l'essence, comme telle, n'existe pas. C'est une capacité d'exister. L'acuité, oui, l'essence et l'acuité, c'est sûr. L'acuité exprime l'essence. Que signifie l'acuité? L'essence d'une chose. Quand vous saisissez l'acuité de l'homme, vous exprimez son essence. Son intelligibilité. Alors voyez les points de vue différents, c'est ça qui est très important à saisir, parce qu'autrement vous confondez tout. Alors pourquoi le théologien a le droit à faire la bouillabaisse de ça? Le théologien a le droit parce qu'il se situe au-dessus par la foi. Alors le théologien a le droit, de fait, d'utiliser forme, nature, substance, quidité, essence. Saint Thomas parlera constamment de l'essence de Dieu. Constamment. Alors vous voyez, quand saint Thomas parle de l'essence de Dieu, l'essence a été baptisée. Parce que je ne peux pas dire qu'en Dieu a une capacité d'exister, puisqu'il dit, il est libre sum esse subsistens. Il est l'être qui existe. Donc l'être qui est parfaitement en acte. Il est l'acte pur. Donc, si je gardais le purisme philosophique, je dirais que en Dieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'essence, mais en Dieu, il ne faut jamais s'arrêter à l'essence. Puisque l'essence s'identifie à son existence. En Dieu, il n'y a pas de distinction entre essence et exister. Donc il ne faut jamais s'arrêter à l'essence. Il faut toujours parler de l'acte pur. Alors pourquoi saint Thomas parle-t-il tout le temps de l'essence de Dieu? Parce qu'Albert le Grand parle. Parce que Avicenne en parle. Mais je crois qu'il faut faire un petit peu attention. Il vaut mieux parler de la substance de Dieu. Ça, la substance de Dieu, oui. Parce que la substance est principe, selon la forme de ce qui est. Donc c'est la détermination. Et au fond, c'est ça que ça veut dire quand je parle de l'essence de Dieu. Quand je dis qu'en Dieu, il n'y a pas de distinction entre essence et existence, vous voyez bien. Quand je dis qu'en Dieu, il n'y a pas de distinction, ce que saint Thomas dit à la question, donc la question 3, de la somme, quand saint Thomas nous dit qu'il n'y a pas de distinction entre essence et existence, il veut nous montrer justement qu'en Dieu, tout est acte pur. Et donc, au sens strict, je ne peux pas m'arrêter à l'essence comme une capacité, puisqu'il n'y a pas de potentialité en Dieu. Tandis que quand je parle de l'essence, je vois une capacité à exister. Vous voyez, pour sentir un peu les sensibilités, le théologien n'a pas besoin d'avoir la même précision que le philosophe. Le philosophe doit être plus précis que le théologien. Pourquoi ? Parce qu'il découvre. Tandis que le théologien, lui, utilise. Quand vous découvrez, vous êtes bien plus attentif au moment de la découverte. Tandis que quand vous utilisez, vous êtes déjà un peu plus loin. Et le théologien utilise la philosophie en passant par la sagesse et la critique. Et donc, si toutes ces notions impliquent une détermination, je veux impliquer par là la détermination de l'être de Dieu. Et je les utilise sans trop faire attention. Alors ça explique, vous voyez, ça explique de fait comment le point de vue de la qu'une laïcisation de la pensée théologique de saint Thomas fait que ce n'est plus utilisable. Parce que tous ces différents aspects qui sont divers pour le théologien sont utilisés de la même façon. Si toutes ces notions sont diverses et qui de fait ont quelque chose de propre, sont à des niveaux différents, je suis là au niveau pratique, philosophie de l'art, je suis là au niveau spéculatif, philosophie de la nature, je suis là ici aux philosophies premières. Et ici, quidité, j'allais dire, je suis au niveau critique. La quidité, c'est au niveau critique. Je réfléchis sur ce que mon intelligence saisit de la réalité, ce que mon intelligence saisit de la substance, la quidité. Le lien entre quidité et substance, c'est l'aspect critique. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé, hein. Dans une saisie de la substance, je n'en parle pas. Aristote en parle, parce qu'au fond, il y a tout un aspect critique à l'intérieur même de sa recherche. Et puis ici, je suis au niveau de théologie naturelle. C'est pour ça que je crois que l'essence apparaît vraiment au niveau de la théologie naturelle, pour montrer la détermination fondamentale de la réalité, et que cette détermination fondamentale de toute créature est distincte de son essai participé. Alors, la question qui se pose, c'est celle que je vous posais tout à l'heure, est-ce que l'essence vraiment apparaît ici, ou est-ce qu'on peut déjà dire qu'elle apparaît au niveau de la découverte de l'être en acte et l'être en puissance? Je crois qu'elle n'apparaît dans toute sa pureté qu'au niveau de la théologie naturelle. Avant, je suis dans l'ordre de la substance et j'essaie de comprendre comment la substance telle qu'elle est réalisée dans la réalité a besoin, pour être parfaitement elle-même, d'être actuée par l'essai. Je vous demande tout de suite, hein, parce que c'est difficile, je résume des tas de choses. S'il y a des difficultés, dites-le tout de suite. Et puis, oui. Qu'est-ce que vous dites?
La différence entre Eidos et
Morphée. Eidos, c'est la forme qui peut être séparée. Au fond, vous voyez, l'Eidos est d'abord dans la pensée de l'artiste. C'est l'idéal. En scolastique, on dira c'est l'idée. La forme qui est dans l'œuvre d'art, elle est présente d'abord dans l'artiste. L'artiste la pense. Vous voyez, elle est le fruit, l'eidos apparaît à partir de l'inspiration. Tandis que la morphée, elle est dans la réalité physique. C'est telle nature. Donc, Morphée montre le point de vue de l'information dans la réalité. Eidos montre beaucoup plus l'intelligibilité, la détermination, l'orientation. Et Eidos, c'est la forme. Je crois qu'Aristote a maintenu le mot Eidos de Platon, qui seraient les formes en soi. Mais l'eidos peut être prise comme une forme en soi. Aristote n'aime pas, il l'a supprimé, il a déjà eidos. Pour Platon, il y a eidos katuto, c'est-à-dire l'eidos prise pour elle-même. Et c'est la forme en soi. On ne dira jamais la morphée katuto, ça n'aurait pas de sens. Ce serait contradictoire. Mais dire une morphée, la forme, elle est dans la nature, elle est dans la matière, quoi. La forme du maître, de l'herbe, de n'importe quelle réalité physique, elle est dans la nature, elle est toujours dans la nature. C'est mon intelligence qui analyse. Tandis que l'eidos, elle peut être saisie à un niveau extérieur à la matière. Elle peut être saisie en elle-même. Oui.
Est-ce que vous pourriez repréciser
C'est là où je dis, je crois que je prends l'essence prise en elle-même. En philosophie première, le problème c'est de voir le hiatus qui existe entre l'essai mode de l'acte et la potentialité de l'être en puissance. Et je pars de l'être en acte. Et je dis, sa première modalité, c'est l'essai. Mais ça, c'est le très gros problème des diverses significations de l'essai dans saint Thomas. J'ai fait une petite étude exprès, parce que c'est tellement compliqué que c'est important de souligner, parce qu'autrement, on se confond tout le temps. Ce qui montre très bien que le philologue ne peut pas comprendre saint Thomas. Parce que l'essai a des significations multiples, et c'est des significations qui peuvent se comprendre qu'au niveau philosophique, pas au niveau de la grammaire. Le même mot a 5 ou 6 significations. C'est affolant. Et Cachetan dira, saint Thomas parle toujours formellement. Comment ? Il parle analogiquement, pas formellement. C'est tout à fait différent. Parce que le même mot peut avoir des significations différentes selon les niveaux différents. Alors, donc, laisser, première modalité, premier mode de l'acte, laisser. Si c'est le premier mode de l'acte et que l'être en acte se distingue de l'être en puissance, je peux me poser la question, toujours, à partir de l'acte, je saisis la puissance. La puissance se dévoile par l'acte. Ce qui est en puissance n'est pas immédiatement intelligible. Donc ça se distingue toujours à partir de l'acte. Je me pose la question, quelle est la modalité correspondante à l'essai ? Or, comprenez bien, qu'est-ce que j'ai saisi avant ? J'ai saisi la réalité dans sa détermination fondamentale et première, la substance. Or, l'essai, c'est l'acte fondamental et premier de la réalité. Donc, je veux montrer là la distance qui existe entre la détermination substantielle et l'essai. La détermination comme telle n'est pas l'être en acte. La détermination demande, alors je pourrais dire que cette détermination substantielle, c'est bien la substance, mais pas la substance comme principe. C'est la substance en tant qu'elle est réalisée et qu'elle n'exprime pas le point de vue de l'exister. Donc, c'est le pose, le comment de la substance composée. La substance composée. La substance composée demande déterminée par l'essai. Cette substance composée, c'est bien la substance essence. Et au fond, je ne sais même pas s'il doit parler de la substance essence. C'est peut-être suffisant de dire la substance composée, qui est en attente de recevoir l'essai. C'est pour ça que je crois que l'essence n'apparaît vraiment comme telle que dans un jugement de sagesse. C'est toute forme déterminée. Qu'est-ce que c'est que la forme ? Et on tourne tout. Parce qu'on est devant des notions tout à fait premières. La distinction, c'est pour ça que je pars exprès de l'œuvre d'art. Parce que là, vous avez une expérience. L'œuvre d'art, quand vous l'analysez, tout de suite, la tire forme. Là, à partir de là, vous comprenez ce que c'est que la forme. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, le cercle des grains. Là, vous saisissez ce que c'est que la forme. Le cercle est une forme. C'est pas une forme, le cercle est une forme. Les grains, dans le cercle des grains, c'est la matière dans laquelle cette forme va se réaliser. Donc, le cercle, la forme implique une détermination qui distingue le cercle du cadre. Qui distingue celle de toutes les autres déterminations. Donc, c'est une forme qui implique une détermination. La détermination, c'est donc ce qui va supprimer la détermination de la matière et qui va permettre à une réalité d'avoir, comme aujourd'hui, sa structure. Je ne sais pas si vous vous éclairez, mais aujourd'hui, sa structure. Bon. Alors, la détermination est de l'ordre de la structure. Tout le structural, c'est l'ordre de la détermination, c'est l'ordre de la forme. Ça ne va pas plus loin, ça ne saisit que la forme et la structure d'une chose. C'est la cuité, la structure, c'est ça la détermination. Alors, vous avez deux notions tout à fait premières, et pour nous, cette notion matière et forme, c'est tout à fait premier. Parce que la première chose, la chose la plus intelligible pour nous, c'est toujours l'œuvre de l'art. Enfin, dans l'œuvre de l'art, c'est très, très, très vaste. C'est ça que vous connaissez en premier. Parce que l'œuvre d'art elle est déjà mise en comme naturalité avec nous. Alors vous avez cette distinction matière et forme, qui est une distinction tout à fait première, mais ce n'est pas encore l'être. Et vous déterminerez l'être, quelque chose qui est plus radical que la matière et la forme, parce que la matière est être, et la forme est être. L'une implique une détermination dans l'ordre de l'être, et l'autre une indétermination. Oui. Donc dans la mesure où vous le pouvez, hein, lisez pour que nous puissions travailler et que ça puisse profiter. Lisez donc dans le livre de l'être à Dieu le premier jugement de sagesse. Distinction réelle entre essence et existence. Alors si vous avez des questions la fois prochaine, je vous répondrai. Si vous n'avez pas, je passerai tout de suite à la seconde distinction. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.